Et place à présent au docteur Stampa, qui va nous parler de quelque chose, d'un phénomène auquel vous allez être extrêmement sensible. C'est le burn-out des aidants. On en parle de plus en plus et c'est fondamental d'en parler. Vous êtes Gérard et au centre gérontologique et on va vous entendre sur ce propos.
Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Alors, pour avancer, je pense que c'est...
Voilà.
Alors, concernant donc les proches, enfin les aidants ou les proches aidants, j'ai repris donc la définition qui est normalement, donc usuellement utilisée, donc qui est le fait d'apporter une aide physique et ou administrative et ou psychologique de façon régulière et non professionnelle. Alors, en même temps, j'ai rajouté la définition donc anglaise que je trouve plus adaptée, qui est le caregiver, qui est le prendre soin. Lorsqu'on interroge donc les proches aidants, on voit que 9 sur 10 proches aidants considèrent que l'aide qu'ils apportent est normale et que c'est comme un devoir. J'ai juste rajouté quelques cas particuliers parce que dans des situations de personnes aidées, on peut avoir quelquefois pas un, mais plusieurs proches aidants. J'ai rencontré aussi certains proches aidants qui apportent une aide et qui ne se considèrent pas ou qui ne veulent pas se considérer comme un proche aidant. Et il y a toujours la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la personne aidée a choisi son proche aidant ? Alors, rapidement, donc, c'est les grands travaux qui ont été faits pour définir les caractéristiques dans les proches aidants. On peut dire déjà que ce n'est pas un groupe homogène et il y a il y a une très large diversité d'histoires personnelles, donc de proches aidants. Déjà, vous dire, lorsqu'on prend donc les proches aidants sur une population générale, en dehors des troubles cognitifs, ils sont extrêmement nombreux, puisque ça va entre 8 et 11 millions en France de proches aidants. Et lorsque l'on regarde ces proches aidants, c'est principalement donc des proches aidants familiaux, donc ils sont des enfants, des conjoints, voire des parents, lorsque donc la personne aidée est un enfant. Le point suivant, c'est que c'est majoritairement des femmes. Les proches aidants, ça, on pourra en parler après. L'aide apportée par les proches aidants, elle est souvent extrêmement importante parce que ce n'est pas uniquement une aide psychologique, c'est souvent une aide physique. C'est-à-dire que ce n'est pas rare qu'un proche aidant aide dans les activités de la vie quotidienne, toilette, habillage. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est que c'est souvent une aide nouvelle. Et là, parfois, c'est assez touchant de voir des hommes se mettre à faire des tâches ménagères et à se mettre à cuisiner à 75-80 ans et qui arrivent pas si mal que ça. Et le point suivant, c'est que finalement, les proches aidants, ce qu'il ne faut pas oublier, que c'est quand même une aide extrêmement importante, c'est un gain économique pour nos tutelles et nos financeurs et que ça permet d'avoir un effet positif sur ce qu'on appelle les trajectoires de soins, c'est-à-dire que ça évite certaines hospitalisations et ça retarde en grande partie donc l'entrée en institution. Alors, lorsque l'on compare les proches aidants versus les non-proches aidants du même âge, du même sexe, etc., on voit des différences. C'est-à-dire qu'on voit des impacts sociaux sur le fait d'être un proche aidant. C'est-à-dire qu'on voit davantage de gens qui s'isolent en tant que proches aidants, on voit davantage de relations conflictuelles donc dans la famille, et on voit aussi des difficultés lorsque vous êtes un proche aidant avec toujours une activité professionnelle, de pouvoir faire les deux. Le second point, c'est qu'il y a souvent une dégradation au niveau de l'état de santé, c'est-à-dire qu'un proche aidant versus un non-proche aidant a davantage de problèmes de santé physique et surtout de problèmes de santé psychologique. Alors, pour plein de raisons, dans le cas des maladies, lorsque vous êtes un proche aidant de quelqu'un qui a des troubles cognitifs, c'est souvent difficile d'accepter aussi ces difficultés relationnelles qui peuvent s'instaurer donc au fil du temps. Il y a aussi des études qui montrent que lorsque vous êtes un proche aidant versus un non-proche aidant, vous avez un risque de décès plus important. Et il y a la question du stress, qu'on va revenir sur la question du burn-out. Et on voit que lorsqu'on est un proche aidant d'une personne avec des troubles cognitifs, ces problématiques sont plus importantes. Lorsque le proche aidant donc a des difficultés et des impacts négatifs, on voit que ça a aussi des impacts négatifs sur la personne aidée. en termes de qualité de vie, en termes d'insécurité des parcours, parce qu'on voit lorsque le proche aidant commence à avoir des difficultés de stress, de burn-out, c'est là souvent où il y a des entrées en institution et des passages aux urgences, et il y a toujours un risque de maltraitance, qui n'est pas forcément intentionnel. Alors, je vais revenir sur la question du burn-out et revenir donc sur trois points. Le burn-out, donc, il faut d'abord considérer lorsque vous êtes un proche aidant, lorsque vous formez ce binôme proche aidant avec la personne aidée, on voit que ça se fait sur un long parcours. J'aime bien l'idée de la randonnée, c'est-à-dire que c'est un long parcours avec la randonnée, avec des moments difficiles comme des moments aussi très agréables et de bonheur partagé. Mais quand je dis que c'est un long parcours, c'est-à-dire que c'est cette aide apportée au long cours va majorer la question du stress, et ça va entraîner donc une notion de stress chronique, jusqu'au moment où ce stress chronique va entraîner une sorte de fardeau, c'est-à-dire vous allez percevoir des difficultés à porter à fournir cette aide au quotidien. Et il y a un moment où, pour des raisons X ou Y, vous n'allez plus être en capacité d'apporter cette aide quotidienne, et c'est le risque d'entrer en burn-out. Alors, j'ai repris, c'est sur des études donc multicentriques, et ça reprend à peu près donc les grands facteurs qui vont majorer donc le risque de burn-out. Alors souvent donc il y a la question de la, pour certaines personnes donc les difficultés financières qui va être un des facteurs de burn-out. Le fait lorsque vous êtes un proche aidant et que vous êtes partagé entre plusieurs aides apportées ou plusieurs activités. Typiquement, l'enfant qui est toujours en activité professionnelle et qui apporte de l'aide à ses parents. Ça peut être une personne qui va apporter de l'aide à ses enfants et de l'aide à ses parents. Et il y a un moment, il y a un conflit de gestion du temps qui est extrêmement important et qui va majorer le risque de burn-out. Et puis, plus vous êtes sollicité par rapport à cette aide, plus vous allez diminuer vos interactions sociales, et c'est un facteur donc un facteur de risque par rapport au burn-out. Et lorsque vous êtes en situation de burn-out, assez classiquement, vous allez avoir une diminution de votre qualité de vie, vous allez avoir une diminution de l'aide apportée, et puis vous allez avoir tous les problèmes de santé qu'on avait abordés tout à l'heure. Alors là, c'est une étude que l'on a faite l'année dernière dans le service où je travaille, qui est un hôpital de jour gériatrique où on reçoit des patients avec des troubles cognitifs, et on a interrogé tous les proches aidants que l'on a vus au moment de cet hôpital de jour. C'est juste pour vous donner donc des informations en termes de qui sont-ils ces aidants de personnes qui ont des troubles cognitifs. Alors on voit que c'est quasiment 80% de femmes. Ce n'est pas que des épouses, c'est des épouses, mais aussi des filles, puisqu'on a à peu près 60% d'enfants et 30% donc d'épouses. La moyenne d'âge de ces proches aidants était autour de 65 ans. 46% donc vivaient donc avec la personne aidée. Et ce qui est assez considérable, on voit que quasiment 87% apportaient une aide depuis plus d'un an. Et on voyait que 41% parmi eux apportaient une aide depuis plus de 5 ans. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de parcours, de randonnée, c'est ça, c'était quand on s'inscrit vraiment dans du long terme. Et puis enfin, on a quand même 33% de cette population d'aidants qui assure plus de 35 heures d'aide par semaine. Les facteurs qu'on avait montrés qui étaient liés au fait de burn-out dans cette population, c'est le fait d'avoir moins de loisirs, c'est le fait d'avoir des difficultés à gérer le temps. Donc on revient sur ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire des gens qui étaient débordés par le fait qu'ils avaient du mal à apporter de l'aide en temps voulu. Et puis un sentiment de détresse et de dépression. Alors, que faire pour aider ou pour éviter donc ou pour anticiper donc ce problème de burn-out? Alors d'abord, quelques messages simples. Mais c'est facile de les dire, mais c'est difficile. C'est souvent donc des grandes discussions, des longues discussions que l'on peut avoir donc avec les proches, que l'on a avec mes collègues donc au niveau des proches aidants. Alors la première des choses, c'est que lorsque vous êtes un proche aidant de quelqu'un qui a des troubles cognitifs, il y a des problèmes de communication, des difficultés de communication, et c'est vrai qu'il y a un moment et avec des problèmes de mémoire. Et c'est vrai, répéter toujours un peu la même chose, ça devient un peu compliqué. Et lorsqu'on dit apprendre à écouter la personne aidée, ce n'est pas toujours simple. C'est important, mais ce n'est pas toujours simple. Le deuxième point, c'est apprendre le lâcher-prise. C'est vrai que ce n'est pas simple pour un proche aidant de dire « mais non, tes parents sont décédés, mais non, on est en 2024 ». Et ce n'est pas simple de dire « bon, je laisse tomber, enfin, je change de sujet ». Le point suivant, c'est apprendre à s'écouter. C'est vrai qu'on a le sentiment que lorsqu'on est un proche aidant, on est un proche aidant sur une longue durée. C'est vrai que par moments, on a du mal à... On est vraiment la tête dans le guidon et on a du mal à se regarder, à s'analyser, à s'auto-évaluer. S'autoriser, donc, à prendre du temps pour soi. Je dis ça parce que très souvent, lorsqu'on propose des situations de répit, ce n'est pas toujours évident pour un proche aidant d'accepter. Donc, voilà, il faut le savoir. C'est important, mais ce n'est pas simple pour un proche aidant d'arriver donc, à s'autoriser à prendre du temps pour soi. Et puis la question des prises de décision communes, c'est vrai que lorsque vous êtes plusieurs aidants avec la personne aidée, c'est important lorsque tout le monde soit d'accord à peu près sur les types d'interventions à mettre en place. Le point suivant, et ça c'est, je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez fait, surtout en France, c'est la question, vous êtes un proche aidant, il faut essayer de pouvoir s'auto-étudier, s'auto-analyser. Quand je dis ça, pourquoi ? Parce que on s'intéresse aux besoins de santé des proches aidants lorsqu'on est avant ou pendant la catastrophe. C'est-à-dire que là, on m'a demandé d'intervenir sur le burn-out, et c'est vrai qu'on s'intéresse, je caricature un peu, on s'intéresse aux proches aidants lorsque c'est le burn-out et qu'il faut faire quelque chose. Le second point, c'est que lorsque vous êtes un proche aidant, vous accompagnez la personne aidée en consultation, les yeux sont rivés sur la personne aidée. Et on ne s'intéresse pas, c'est que c'est avant tout la personne aidée et qu'on ne pose pas forcément de questions à la personne aidante de comment ça va, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Mais il y a aussi que le proche aidant, il sous-estime, c'est-à-dire qu'il dit que tout va bien, comme on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc la question de s'auto-étudier, ce n'est pas toujours évident pour lui de dire que ça ne va pas. Alors, la question de l'évaluation, et je reviens sur l'étude qu'on a faite l'année dernière, donc en 2023, parce qu'on a étudié, on a posé la question, donc on a fait cette étude auprès des proches aidants, et il y a 4 points qui nous ont paru importants. Le premier point, c'est reconnaître le rôle du proche aidant et quantifier leur aide. C'est-à-dire que nous, on avait un outil d'évaluation, un outil d'auto-évaluation, donc ils avaient plusieurs questionnaires. Et lorsqu'on leur posait la question de savoir depuis quand ils aidaient, depuis la quantité d'aide qu'ils apportaient donc, par semaine, ils étaient eux-mêmes surpris de mesurer que c'était énorme. C'est-à-dire que quand vous apportez une aide au quotidien, on a plus forcément ce recul de se dire mais finalement tout ce que j'apporte c'est vraiment important. Donc ensuite identifier des besoins, identifier les capacités à fournir et recevoir des informations. L'autre question de pourquoi l'intérêt d'évaluer les besoins du proche aidant, c'est parce que souvent lorsque on dit à un service d'intervenir à domicile, lorsque les professionnels intervenants à domicile et qui voient qu'il y a un aidant, souvent on dit ben, il y a un aidant, du coup on va moins intervenir. Donc il y a un transfert de l'activité d'aide qui va des professionnels vers les non-professionnels. Et du coup, ça majore tout ce qu'on a pu dire précédemment. Le point suivant, c'est-à-dire que finalement, lorsqu'on est un proche aidant, on devrait aussi avoir un plan d'aide et un plan de soins. Tout comme la personne aidée a un plan d'aide, un plan de soins, on devrait, en tant que proche aidant, se dire, voilà, avoir des recommandations en termes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir garder mon niveau de santé, pour éviter donc, les situations de burn-out. Et ça devrait se faire tout au long du parcours de l'aide. Ensuite, après, donc, il y a des réorganisations. Donc, il y a d'abord donc, dans notre système de santé donc, toutes les situations de répit, mais je pense que vous devez connaître donc à domicile, en accueil de jour, et puis les séjours donc temporaires, donc programmés et non programmés. Et l'idée, c'est que nous, par exemple, donc sur l'hôpital donc gérontologique donc de Montolivet, on développe donc de la consultation aidant et on développe des hôpitaux de jour aidant aidés. C'est-à-dire qu'on voit l'un et l'autre séparément, en même temps, le même jour, et pour des situations souvent un peu compliquées. Et on s'aperçoit que lorsqu'on pose la question au proche aidant, lorsqu'on l'avait vu en consultation, tout allait bien. Et en fait, on voit que dans la réalité, lorsqu'on les voit en hôpital de jour, finalement, c'est jamais aussi simple que ça. Alors, on m'a demandé de parler donc du burn-out, mais c'est juste que je voulais souligner, c'est tous les impacts positifs de l'aide lorsque on est un proche aidant par rapport à la personne aidée. Bon, ça, c'est des phrases que j'avais retirées, enfin, que j'ai nommées donc, au cours de mes consultations. Très souvent, les gens reviennent un peu sur des choses. Enfin, d'abord, dire qu'il y a beaucoup d'amour dans ces relations-là. Il y a la question de donner du sens à sa vie. La question de vouloir rester ensemble et d'essayer de rester ensemble le plus longtemps possible, quasiment jusqu'au bout si c'était possible. La question de se retrouver. Il y a souvent des enfants ou des conjoints qui se sont un peu perdus de vue au cours de leur vie et finalement pour eux c'était important de revenir vers leurs parents au moment de l'arrivée de cette maladie. Et puis il y en a certains qui disent « moi j'ai besoin d'être présent auprès de mon proche, de ma personne aidée ». Pour les dernières années de sa vie. Bon, donc en conclusion, je voulais juste revenir sur la question de la randonnée, la question du long parcours, et que lorsque on devient un proche aidant, on devrait recevoir une information sur tous les facteurs de prévention. Faites attention à telle chose, pour éviter, tous les risques de ce parcours qui n'est pas toujours donc. Qui n'est pas toujours simple. Le second point, c'est la question de on est un proche aidant, les professionnels de santé doivent faire attention à vous. En plus du fait que lorsque vous êtes un proche aidant, il faut faire attention à vous, davantage que ce que vous faites aujourd'hui, mais il faut que les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, posent aussi la question aux proches aidants de savoir comment ça va, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider, etc. Et puis, il y a toute la question donc de l'innovation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je vous ai abordé rapidement donc la question donc des situations de répit, mais c'est vrai que je pense que plus on ira vers une évaluation des besoins des proches aidants et sur le long cours, plus on aura de l'information via les proches aidants sur les alternatives à mettre en place. Et ça, je pense que les proches aidants peuvent être extrêmement utiles pour pouvoir nous aider à construire l'avenir. Merci.
Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir bien introduit cette discussion. Moi, peut-être une question très générale. Vous avez donné les chiffres qui inquiètent. C'est un équivalent temps plein, le temps que passe un aidant auprès de l'aidé. On sait que la société évolue. Vous avez décrit des aidants qui ont 65 ans en moyenne. Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans ? Est-ce qu'il y aura encore des personnes auprès de ces personnes qui ont besoin d'aide ? Est-ce que vous n'êtes pas temps d'alerter les pouvoirs publics ? Parce qu'aujourd'hui, on a des millions d'aidants qui consacrent un temps plein à assister. On voit l'évolution de la société. Vous voyez ce que je veux dire ? Vers plus, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, d'individualisme. Dans 20 ans, qui on mettra auprès des personnes qui seront dans ces situations. Est-ce que vous alertez les pouvoirs publics sur ces questions importantes
Il y a plein de choses qui sont en train de s'organiser actuellement. D'abord parce que les nouveaux retraités n'ont pas envie de vieillir comme la génération d'avant et sont beaucoup plus actifs aujourd'hui que les 65-80 ans, je caricature, ont davantage le droit à la parole que ceux qui ont aujourd'hui donc 85 à 90 ans. Donc eux ont envie vraiment de faire bouger les choses. Il y a beaucoup de projets alternatifs aujourd'hui d'habitat partagé sur des petites unités, c'est-à-dire de regroupement de personnes autour de 7-8 personnes. Il y a plein de projets actuellement qui se mettent en place dans des zones rurales, urbaines et rurbaines pour imaginer que lorsque je commence à avoir des troubles cognitifs, finalement, est-ce que ce n'est pas mieux de vivre dans des petites communautés ?
Entre soi.
Entre soi. Entre soi. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée, ce n'est pas la réponse à tout, mais c'est une des réponses pour essayer d'anticiper le fait que probablement demain, on n'aura pas forcément toujours un proche aidant présent.
C'est ça. Ça, c'est une question très importante et à laquelle il faut réfléchir dès aujourd'hui.
Bien sûr.
D'accord. Très bien. Allez, je ne vais pas... Oui, bien sûr, madame, mademoiselle, on vous passe le micro. J'en ai un troisième ici, en cas où.
Bonjour. J'avais une petite question. Alors, nous, on est une équipe spécialisée à Alzheimer. Et pour objectiver un petit peu, si on peut dire les choses comme ça, la difficulté justement de l'aidant, on utilise l'échelle de Zaryt. Je voulais savoir si vous aviez quelque chose à nous recommander, à nous professionnels de santé, comme outil qui puisse être ensuite utilisé par les médecins ou voilà, qui pourrait être, comme vous disiez, on a souvent cette espèce de double discours entre tout va bien, on a besoin de rien, et puis en fait on se rend compte que quand on pose les bonnes questions, finalement il y a des difficultés et qu'on peut agir différemment. Donc voilà, est-ce que vous nous conseillez quelque chose ou est-ce que cette échelle vous paraît un outil
Alors peut-être expliquer au grand public ce qu'est ce test, pardon.
L'échelle de Zaryt, ça revient à évaluer donc, le fardeau de l'aidant. Et en fait, on l'utilise au moment... Il y a différentes versions de l'échelle, mais il y a à peu près au moins une trentaine de questions. Et grosso modo, ça montre toutes les difficultés que vous pouvez avoir. Et du coup, donc, ça évalue donc, la quantité du fardeau, le niveau. Et finalement, c'est une approche indirecte pour évaluer donc, le burn-out. Donc l'idée ça a une utilité le Zaryt hein, lorsqu'on a des situations aiguës, mais l'idée c'est de pouvoir évaluer donc avant. Alors là il y a peu de choses dans les outils d'évaluation donc avant. Là on est en train de travailler, on est 18 pays à travailler sur une échelle. Ce qui est intéressant parce que quand je dis 18 pays, c'est-à-dire que on voit que les problématiques sont les mêmes, que ce soit donc, je sais pas, les pays d'Amérique du Sud, les pays d'Afrique, certains pays d'Afrique qui sont dans ce groupe, des pays donc d'Asie, il y a l'Inde. L'idée, c'est, je pense, que ça sera finalisé donc l'année prochaine, mais c'est un outil d'auto-évaluation. C'est celui qu'on a utilisé, mais qui était dans une version qui n'est pas encore finalisée. Et cet outil d'auto-évaluation, vous mettez à peu près donc, 25 minutes à 30 minutes pour le faire. Vous êtes un proche aidant, vous remplissez donc cet outil d'auto-évaluation. Et cet outil va permettre d'évaluer vos niveaux de risque. Voilà. Mais pas uniquement que psychologique, mais physique, des problèmes de santé, des problèmes de...
L'avez dit, hein, je crois. Rappelez ce chiffre, 40% des aidants décèdent avant l'aider. Hein.
Oui, en fait, c'est pour dire que...
C'est voilà. Un chiffre qu'il faut quand même, un pourcentage dont... Qu'il faut... Ben non, parce que vous parlez de ça, dire. Voilà. C'est quand même suffisamment grave pour le pointer.
Mais tout ça pour dire, donc, le Zaryt, c'est bien lorsque les situations sont aiguës, mais l'idée, c'est d'avoir un outil donc, bien en amont. Et ça, je pense que ça sera normalement finalisé milieu d'année prochaine.
On communiquera dessus. Ouais. Oui, madame.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, j'accompagne quelqu'un depuis 7 ans qui a 60 ans, qui est aujourd'hui grabataire et qui a du discernement. Et moi, d'abord, par rapport aux impacts positifs, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que constamment, on invente et on réinvente la relation, effectivement avec beaucoup d'amour. C'est un gros fardeau. Mais moi, je trouve, de cette expérience personnelle, que le plus compliqué, c'est d'avoir affaire à des professionnels qui ne connaissent pas la maladie d'Alzheimer, que ce soit au niveau des SIAD, au niveau de l'équipe de soins palliatifs, parce qu'on a l'habitude d'accompagner des gens qui sont en fin de vie avec des cancers, mais pas forcément avec la maladie d'Alzheimer, et c'est pas pareil. C'est une maladie qui est très très particulière, qui s'étend beaucoup sur en termes de précocité, il faut le savoir quand même, malgré l'hygiène de vie qu'on peut avoir. Je vais pas rebondir là-dessus parce que c'est... Mais voilà, moi je suis avec quelqu'un qui était instruit, cultivé, sportif, qui ne buvait pas, etc. Donc, il y a... Voilà. Aussi, ce que je veux vous dire, c'est que par rapport... Donc, il y a effectivement ces accompagnements très précis. Le centre de mémoire à Marseille, c'est pas avant 60 ans, par exemple. L'accompagnement juridique, je vous dis ça, hein, je me lâche un peu, mais l'accompagnement...
Allez-y.
Je peux aller voir un psy en sortant, mais... L'accompagnement juridique est très compliqué parce que quand on choisit comment on va pouvoir préparer cette maladie à l'avenir et qu'on se dit, je ne veux pas de tuteur, je vais choisir mon mandataire, je vais organiser ma protection et je vais choisir cette personne, je vais la mandater pour qu'elle me protège et qu'elle s'occupe de moi. Ce n'est pas reconnu.
Ce n'est pas
en PACA. Ce n'est pas reconnu en PACA. Vous allez quelque part, on vous dit, vous êtes tuteur ? Non, je suis mandataire. Ah, nous n'accueillons que les tuteurs, etc., etc. Et je trouve que, à différents niveaux, en tout cas pour les précoces, parce que moi, je ne sais pas si c'est intéressant, excusez-moi, hein, je vais être un peu crue, mais vivre 6 mois quand on a 80 ans, vivre 6 mois de plus, bon, oui. Je ne sais pas. Bah, si on a
c'est
du discernement,
éthique,
c'est une question qui se pose.
Dans quel état on est, probablement. Enfin,
voilà, plus, si on a du discernement jusqu'au bout, et ça peut être très compliqué de vivre très longtemps. Mais en tout cas, je trouve que les gens, la majorité des professionnels de santé que je rencontre depuis 7 ans, ne sont pas formés à cette maladie.
Alors, je vais juste vous renvoyer juste une petite question avant que le médecin vous réponde. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant qu'aidant familial, aidant proche, vous n'êtes pas entendu par ces professionnels ? Est-ce qu'il y a aussi cette remarque ? C'est-à-dire, vous qui le connaissez, qui accompagnez depuis des années, votre parole n'est pas entendue des professionnels ?
Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis.
Non, mais je vous pose la question.
Non, je vous réponds.
Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre, à les guider, je dirais ?
Pas du tout. Oui, on les guide ensemble avec le patient, l'aidant et le professionnel. Et les
donc
gens
vous
nous
êtes
disent,
entendu des professionnels.
Avec vous, on découvre la maladie d'Alzheimer. On va au village de Dax, qui est quand même un endroit, aux maisons de Crawl. On a rencontré les gens de Carpe Diem. On a appris à vivre avec cette maladie. Et c'est vrai que des tas, même des gens, enfin voilà, je dis pas qu'on est artistes, on a continué d'inventer notre vie et de créer notre vie. C'est extraordinaire. Je dis juste que voilà, les infirmières qui viennent, vous vous rappelez de moi ? Je suis Imen. On s'est vu il y a 10 jours. Ça ne sert à rien. Et c'est un exemple un peu bateau, mais c'est un combat de tous les jours. Aide-soignant, infirmier, médecin. Vous allez voir un psychiatre, vous dites, écoutez, je viens vous voir parce que j'ai peur dans quelques années de péter un boulon parce que c'est quand même dur ce que je vis. Mais écoutez, vous n'avez pas besoin de moi. Revenez dans 4 ans. Ah oui, en fait, je reviens quand j'ai le cerveau défoncé. En fait, vous allez me donner des médicaments ? Non, j'ai besoin de vous maintenant. J'ai vu 4 psychiatres. Et voilà, c'est juste que je voulais dire que dans tout ce que vous avez dit, excusez-moi parce que...
Votre témoignage
vraiment,
est très important.
C'est vraiment le plus gros fardeau aujourd'hui, en 2024, en la région PACA. Parce que je pourrais en raconter plein des choses comme ça. La maison départementale des personnes handicapées ne reconnaît pas, en tout cas il y a 7 ans, ne reconnaissait pas le handicap sur une maladie d'Alzheimer. Il faut se battre.
Oui. Beaucoup de choses,
etc.
Excusez-moi.
Merci et bravo pour ce
témoignage. Parce
c'est
que
juste qu'il y a une fragmentation des financements. Donc du coup, lorsque vous avez moins de 60 ans, donc vous êtes MDPH et après vous êtes donc APA, avec des équipes qui sont plutôt vers le handicap et d'autres qui sont plutôt donc vers le vieillissement. Et souvent, donc voilà, et les acteurs ne s'en parlent pas forcément. Et alors que normalement, on devrait apporter une aide, quel que soit l'âge. Le deuxième point par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que je trouve que si jamais un jour j'avais des troubles cognitifs et que je désire rester chez moi, ce que j'envisagerais, c'est que vraiment on prenne du temps pour moi. Enfin, je trouve que la question du temps est centrale, c'est-à-dire que faire une toilette, laver une personne, ça ne peut pas se faire en quelques minutes, comme aujourd'hui, beaucoup d'infirmières le font, non pas à cause d'elles, mais c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, l'organisation est telle, c'est que, voilà, elles ont X passages, interventions par jour. Et que, alors qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes une personne avec des troubles cognitifs, des problèmes sensoriels, des problèmes de compréhension, souvent, donc, le toucher est extrêmement important. La parole n'existe pas forcément. Ça passe pas forcément par la parole. Mais ce que je veux dire, c'est que pour mettre une personne en condition pour faire une toilette lorsque vous avez des troubles cognitifs importants et que vous êtes alité une grande partie de la journée, ça devrait compter sur une matinée. Mais aujourd'hui, qui a le temps d'apporter cette aide et qui a la qualification aussi d'apporter cette aide ? Je pense que ça, c'est au pouvoir public et c'est aussi à nous tous aujourd'hui de nous battre pour pouvoir avoir ces soins de qualité lorsqu'on sera plus en capacité de pouvoir réaliser nos activités de base.
Madame,
je voulais dire que lorsque nous sommes aidants...
Un peu plus près, s'il vous plaît.
Vous m'entendez ? Nous sommes aidants, la première difficulté que nous avons, c'est d'avoir un contact avec une assistante sociale. C'est extrêmement compliqué. Oui, je suis désolée. Voilà. J'habite le 4e arrondissement à Marseille. Croyez-moi, mon époux est malade depuis fort longtemps. Le contact est très difficile. Donc, lorsque vous avez besoin du contact avec l'assistante sociale, parce que chaque fois que vous avez une modification à apporter chez vous, il faut passer par l'assistante sociale, obligatoirement.
Et ce sont des professionnels qui manquent.
Déjà, sur ce point-là, si nous pouvions avoir juste un petit peu d'écoute, et tout le reste, bien entendu, ce que vient de dire la dame, c'est tout à fait exact. Tout à fait exact. Tout à fait exact. Il y a très longtemps que mon époux est malade, très longtemps que... D'ailleurs, je connais monsieur qui l'a vu, à Montolivet. Il y a très longtemps... Il y a très longtemps qu'il est malade, très longtemps qu'il est malade, très longtemps qu'il est soigné. Et vous savez, c'est très difficile d'avoir des comptes. C'est très difficile. Et le personnel aidant et se trouve, finalement, dans presque la même situation que nous. Parce que les infirmières n'ont pas le temps.
Bien sûr.
Les assistantes sociales n'ont pas le temps. Le médecin traitant n'a pas le temps. Donc, ce qui fait que vous vous retrouvez ensuite complètement isolé, à devoir prendre vos décisions toute seule, pratiquement, et dans beaucoup de cas. Et puis, on s'entraide les uns aux autres. Voilà.
La question de madame appelle peut-être une observation. Il y a eu l'EHPAD bashing, il y a eu le virage domiciliaire. Maintenir à domicile associé à une forme de culpabilisation. Est-ce qu'on n'a pas, créé des situations terribles aussi avec ça? C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations, vous disiez tout à l'heure, si moi j'avais des troubles cognitifs, je veux qu'on prenne le temps de s'occuper de moi, etc. Mais est-ce que tout ça est vraiment réalisable à domicile avec des professionnels qui manquent de partout, des professeurs du social, du médico-social, du médico tout court? Peut-être...
Non, je crois que, d'abord, il ne faut pas opposer le domicile et l'institution. Il y a des EHPAD où ça marche très bien et d'autres où c'est très compliqué.
Aujourd'hui, on met en EHPAD très tard.
Oui, il y a un turnover aussi très important des professionnels des EHPAD, donc ce n'est pas simple à faire des choses de qualité sur la durée. Après, je pense qu'il faut peut-être... Enfin, la question de... la question des séjours temporaires. Alors, il y a l'accueil de jour lorsque vous êtes une personne encore en capacité de marcher, etc. Donc ça permet à la personne aidante d'avoir une journée, voire deux journées donc, dans la semaine, ce qui est important pour souffler. Mais c'est aussi, en fait, il faudrait imaginer presque l'EHPAD sur une durée d'une semaine, 15 jours, un mois, et de façon... régulière. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des proches aidants qui disent « Moi, je veux continuer à rester avec la personne aidée chez moi, mais j'ai besoin que tous les 3 mois, d'avoir 15 jours. » Ce qui, je trouvais, ça s'entendait très bien. C'est-à-dire qu'elle avait besoin de ce temps. C'est-à-dire que pour elle, 3 mois, c'était possible d'apporter une aide au quotidien, mais après, elle avait besoin de 15 jours. Et ça a été la croix et la bannière d'arriver à organiser le fait qu'une EHPAD, tous les 3 mois, puisse prendre une personne pendant 15 jours. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, ça, les EHPAD de demain, elles doivent avoir cette capacité d'organiser.
Est-ce que vous avez fait appel, madame ? Vous avez fait appel à ça, pardon. Si on peut redonner un micro à madame, je ne sais plus où il est, le micro. Vous avez à ce type de structure.
Oui, à toutes sortes de types de structures. Bon, il est évident que c'est compliqué, il faut être honnête, très honnête. C'est difficile pour nous qui sommes difficile de couper, de se détacher et de se dire, bon, demain je vais partir et puis je vais mettre mon époux, ma femme, etc. à tel endroit. C'est très difficile. D'essayer de garder le plus longtemps possible nos malades à domicile, parce qu'on voit bien,
entendez bien.
Ah, je fais la voix qui porte, je sais. Parce qu'on voit bien qu'un malade à domicile, On voit bien la différence qu'il y a entre un malade en EHPAD. Moi, j'ai vécu les deux. Donc, je vois bien la différence qu'il y a. Mais pour qu'un malade puisse être maintenu à domicile, il faut, je crois, qu'on nous aide. Mais qu'on nous aide vraiment, à tout point de vue. Financièrement, je vais commencer par là, financièrement, et puis le reste. Parce que, bien entendu, lorsque vous avez une retraite, je vais parler pour tout le monde, je pense, lorsque vous avez une retraite qui est convenable, mais que de cette retraite convenable, on vous enlève tous les frais de garde, les couches, les médicaments et tout ce qui n'est pas remboursé, mais votre retraite, elle n'est plus. Elle ne fait plus partie de cette tranche-là. Votre retraite dégringole et elle passe au stade inférieur. Et tout ça, ce n'est pas pris en compte. Ce n'est pas pris en compte. Donc, c'est dommage. C'est très dommage.
Merci pour ce témoignage et ces réflexions.
Non, c'est vrai, j'avais vrai.
J'attendais. Mais... Ouais. Madame a raison.
Madame a raison, donc j'ai rien à rajouter.
Je crois qu'il est d'accord avec vous. Vous parliez tout à l'heure peut-être, c'est un point important, du risque de maltraitance aussi à domicile. Est-ce que dans tout ce que vous préparez, de tests, de mesures, est-ce que justement, quand on n'en peut plus, c'est un risque, malheureusement.
Alors, je l'ai rajouté parce que c'est vrai qu'il y a des situations, il y a des jours où je me mets à la place d'un proche aidant. Lorsque vous êtes sollicité quasiment, je ne dis pas du 24-24, mais c'est souvent du 20h sur 24. C'est-à-dire que lorsque vous dormez avec la personne aidée qui se réveille 10 fois la nuit, qui dans la journée va déambuler, vous êtes obligé de le surveiller. Il y a un moment, on n'en peut plus, donc on comprend très vite la question du burn-out. Et il y a un moment, on peut avoir des gestes maltraitants. Ça s'entend. Et surtout lorsqu'on est seul et qu'on n'est pas forcément aidé et de recevoir la bonne aide au bon moment. Voilà, donc nous, en fait, la question, c'est d'essayer de... Surtout, on passe beaucoup de temps à parler avec les proches aidants pour qu'ils puissent nous dire un peu, voilà, eux, leurs difficultés, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Voilà. Et c'est vrai ce que vous avez dit tout à l'heure, et c'est vrai que d'organiser un répit, même un répit de 15 jours, 3 semaines, en sachant qu'il est pas si mal, il est bien à la maison et on est bien ensemble aussi, et même si j'ai besoin de ce répit, c'est toujours compliqué d'imaginer que je vais le laisser. J'ai souvent je ne peux pas le laisser 15 jours, 3 semaines, parce qu'on a peur qu'il lui arrive quelque chose. Et ça s'entend tout ça. Et en même temps, on sait bien qu'on doit le faire parce qu'on a besoin de ce répit. Voilà, donc c'est tout le paradoxe
Oui, vous le disiez, c'est des années, c'est du très très long terme. Voilà. Donc effectivement, très bien. D'autres remarques ou questions? Non, il n'y a plus. Ok, merci beaucoup, on vous applaudit.